Mesdames, Messieurs, profitant des sessions du Conseil international des missions et du Conseil œcuménique, l'Église protestante de Genève avait convié mercredi soir les hôtes illustres de la cité de Calvin et les fidèles à un culte œcuménique en la cathédrale de Saint-Pierre. Les uns et les autres répondirent avec ferveur à cet appel. On n'avait jamais vu foule pareille se presser dans le temple du Seigneur. Organisateurs et participants avaient tenu à ce que cette cérémonie se déroulât le plus simplement possible, sans le moindre apparat, dans la plus grande dignité. Les invités et les pasteurs de l'église de Genève s'étaient réunis dans la chapelle des Maccabées. Ils en partirent en cortège, deux par deux, passèrent sur la place du Puy-Saint-Pierre et pénétrèrent dans la cathédrale par la grande porte au moment où éclatait un jeu d'orgue. La toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, exécuté par Pierre Segond. La foule respectueusement s'écarte et la cohorte sainte gagne le chœur. Peu après, un autre cortège s'ébranle à son tour. Ce sont les hauts dignitaires, les conducteurs spirituels de centaines de milliers de croyants, réformés, anglicans et orthodoxes. Ils viennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Voici en tête le modérateur de la compagnie des pasteurs, M. Célérier, qui a à sa droite le pasteur Marc Beugner, président de l'Église réformée de France. Derrière eux, voici le docteur John Mott, représentant des Églises des États-Unis et du Comité universel des unions chrétiennes de jeunes gens. Il marche à côté de l'archevêque de Thyatire, le docteur Germanos. Voici le docteur Koechlin, président de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, aux côtés duquel s'avance le lord archevêque de Canterbury, primat de l'Église anglicane, le très révérend docteur Fisher. Voici le docteur Chester Miahou, secrétaire général du Conseil national chrétien de Chine. Voici le très révérend Eivind Berggrave, évêque d'Oslo, primat de Norvège, qui marche à côté du pasteur Martin Niemöller, vice-président du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne. Voici l'archevêque d'Uppsala, primat de Suède, l'archevêque de Copenhague, l'évêque de Chichester, l'évêque du Württemberg, président du Conseil de l'Église évangélique allemande. Voici le docteur Arnott, modérateur des Églises réformées du Canada. Voici l'archimandrite Cassian du Mont Athos et tant d'autres. Ils sont tous passant devant nous en grande mais simple tenue. La robe ou la redingote noire se parsème quelquefois d'écarlate, de violet, de blanc. L'archevêque Berggrave porte une collerette blanche, empesée et froncée, telle celle d'un vieil huguenot. L'archevêque Germanos, une grosse chaîne au bout de laquelle pend une croix de Saint-André en or ciselé. L'archevêque de Canterbury, un collier que termine un crucifix en or massif, mais aucune parade, aucune ostentation. Chacun gagne silencieusement sa place et le culte va commencer. En fin du cortège, venait un jeune clergyman anglais. Il était beau. Son regard était énergique et angélique à la fois. Il portait un vieil Germanos, hausse sur au bout de la Saint-André, en dehors, si son nom, qui est que c'est en or, mais au bas de mettra silencieusement en place et le culte va commencer. Venez bien qui m'a traité d'évangélisant cela dans ma pensée, à l'image de cette antique cathédrale, celle que je venais de vivre quelque temps auparavant dans Londres, où un dimanche matin, j'avais insisté derrière un service célébré dans les ruines, face au même angélique sourire, à la même voix vivante. Les fidèles, toujours aussi attachés à leur église, malgré sa destruction matérielle, étaient en étroite communion avec leur Dieu. Eux avaient expérimenté sa douce protection et leur âme vibrait de reconnaissance tandis que s'élevait très simplement la parole de l'homme de Dieu. Même ferveur, mesdames et messieurs, chez ceux de Genève, au moment où le pasteur Célérier monte en chaire. C'est à lui qu'incombe la partie liturgique.
Levons-nous, mes frères, pour invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, tu es le souverain maître. Maintenant donc, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Voici le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a donné dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes. Vous avez entendu, mes frères, les commandements de la loi de Dieu. Présentons-nous ensemble devant le Seigneur, pour lui faire maintenant une humble confession de nos péchés en suivant du cœur ses paroles. Prions Dieu. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans le mal, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et que nous transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements, ce qui fait que nous attirons sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une sérieuse repentance. Et nous te supplions de venir par ta grâce au secours de notre misère. Daigne avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Accorde-nous aussi et augmente continuellement en nous les grâces de ton Saint-Esprit, afin que reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, que nous y renoncions de tout notre cœur et que nous portions des fruits de justice, de sainteté et d'amour qui te soient agréables par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paroles de pardon adressées à tous ceux qui se repentent et mettent leur confiance en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans l'élan de notre reconnaissance envers Dieu, nous souvenons que la foi de l'Église, Il a été crucifié, il est mort, Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il vient des morts. Par au Saint. Trois, la Sainte Versaine, la commun, la rémission, la résurrection et la vie éternelle. Amen.
Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εν αυτόν, είμαστε αυτοί όσοι...
Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, en les retirant du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés par la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme tu es en moi, Père, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je suis en eux, et tu es en moi. Que leur unité soit parfaite, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
That we may turn to serve thee in newness of life through the same our Lord Jesus Christ. Amen.
Ô éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, reçois l'hommage de notre reconnaissance. Tu nous as fait naître dans ton Église et tu nous as éclairés des lumières de ton Évangile. Sans cesse, tu nous as visités par les joies et par les douleurs que tu as semées sur notre chemin. Tu as multiplié tes appels, tes consolations et tes délivrances. Souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main les destinées des nations, nous te prions tout d'abord pour les hommes auxquels tu as confié le gouvernement des peuples, l'administration de la justice, et la responsabilité d'établir la paix sur les ruines de notre terre. Inspire-leur la crainte de ton nom. Donne-leur l'humilité, la force et la sagesse qui leur sont nécessaires pour que nous puissions te servir dans la paix. Ô notre Dieu, toi que les cieux des cieux ne peuvent contenir, mais qui daignes t'approcher de ceux qui t'invoquent et te faire connaître à ceux qui te cherchent, veuille répandre en ce jour sur ton Église universelle ton esprit de lumière, de grâce et de vérité, pour que, d'une même voix et dans un même amour, elle adore et sanctifie ton nom éternellement béni. Que soumise toujours plus à son divin chef, elle croisse dans l'unité véritable et fasse resplendir aux yeux des hommes la lumière de ton évangile et la puissance victorieuse de la croix. Nous te célébrons pour l'amour rédempteur que tu nous as révélé par la vie et par la croix de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la grâce qui fait de nous ses disciples. Nous te louons pour tous les dons du Saint-Esprit, par lequel tu brises les liens de l'iniquité et nous rends à la liberté glorieuse de tes enfants, de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la grâce qui fait de nous ses disciples. Nous te louons pour tous les dons du Saint-Esprit, par lequel tu brises les liens de l'iniquité et nous rends à la liberté glorieuse de tes enfants. Tu ouvres les yeux de ceux qui étaient aveugles et redresses ceux qui étaient courbés. Nous te bénissons pour la communion sainte de tous les croyants dans le monde présent et pour les promesses et l'espérance du monde à venir où ta gloire et ton règne n'auront pas de fin. Louange à toi, Seigneur, Dieu de vérité, de beauté et de charité. Gloire à ton saint nom, en Jésus-Christ. Amen.
Viennent maintenant les allocutions. Elles seront suivies de psaumes chantés par le chœur de la maîtrise protestante dirigé par Roger Watin. Le premier orateur est le docteur Chester Miao, secrétaire général du Conseil national chrétien de la Chine. Mince, long dans sa robe à parements écarlates, grisonnant, portant lunettes, il prend place en chaire. Écoutez-le, ainsi que la traduction du principal passage de son exposé.
I want to bring very warm greetings to you from young churches in China. If you will allow me and give me your patience, I want to share with you in the next 10 minutes a question which was very much in our hearts and probably in your heart during the wartime.
Une angoissante question s'est posée aux églises chinoises au début de la guerre. Allait-elle survivre à la tourmente? Elle ne recevait plus d'aide matérielle des sociétés de missions étrangères. Tous les missionnaires avaient dû quitter le pays et les autorités occupantes témoignait une méfiance croissante à l'égard des églises chrétiennes. Nous n'avions pas oublié les leçons de l'histoire. Par deux fois, au 5e siècle, avec les missionnaires nestoriens, et au 15e, avec les catholiques, le christianisme avait cherché à s'implanter chez nous, mais avaient été rapidement liquidées et supprimées. Vous comprenez donc que cette question « survivrons-nous à la guerre ?» n'était pas purement académique. La guerre est finie, et nous pouvons dire avec joie et reconnaissance, nos églises ont survécu grâce à Dieu et grâce au fidèle travail accompli par les missionnaires jusqu'à la guerre. Ils ont en effet laissé derrière eux, à leur départ forcé, des hommes, des femmes qu'ils avaient formés, fermement décidés à poursuivre l'œuvre commencée, à servir Dieu et le prochain par la prédication, l'enseignement, le travail médical et social. Lorsque nos églises furent occupées par les autorités militaires japonaises, les chrétiens continuèrent cultes et réunions en privé. Lorsque nos écoles furent fermées ou détruites, on en improvisa d'autres et le matériel scolaire fut remplacé par les Chinois eux-mêmes. Lorsque nos hôpitaux furent occupés, nos médecins, nos infirmières ouvrirent dans les environs des cliniques, des lazarets de fortune. Ce courage, cette persévérance des chrétiens chinois ont permis à nos églises de survivre. Mais nous n'oublierons pas non plus l'aide magnifique que le peuple chinois non chrétien apporta à nos églises en détresse. Il a fourni l'argent nécessaire pour payer nos professeurs, pour offrir aux étudiants pauvres les moyens de poursuivre leurs études. Nous avons été soutenus par les ouvriers et leurs syndicats. Le peuple chinois savait que nos églises étaient des cellules de résistance, des foyers où l'on trouvait soutien et réconfort spirituel. Ils préféraient envoyer leurs enfants dans nos écoles plutôt que de les confier à celles du gouvernement des Kizling à la solde de l'occupant. Enfin, et ce ne fut pas le moindre des encouragements, nos églises étaient au courant de la résistance, de celle de Hollande, du Danemark, de la Norvège, de l'Allemagne même, d'ailleurs encore. Grâce au bulletin du service œcuménique de presse et d'information que nous recevions malgré tout de Genève. Le lien œcuménique fut ainsi maintenu avec toutes les églises. Quel encouragement, quel appel à poursuivre notre tâche. Des chrétiens japonais, et nous fîmes l'expérience que la communauté chrétienne est capable, même guerre, et des barrières de nuit. Une grande expérience humaine. Chine, survécue aujourd'hui, étape nouvelle s'ouvre, celle de la responsabilité dès que le christianisme n'ont jamais été plus grande qu'aujourd'hui. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour l'Église chrétienne en Chine. Nous désirons ardemment que les missionnaires viennent travailler à nos côtés. Nous les appelons de tous nos voeux.
Et voici, digne, droit, jeune encore malgré les cheveux argentés, l'évêque Berggrave de Norvège. Dans ce cas également, nous vous donnerons une traduction des parties essentielles de son émouvante profession de foi.
Wir haben uns gebeten, dass Repräsentanten von den okkupierten Ländern hier reden soll. Wir haben schon China gehört. Ich komme nun als ein Vertreter der kleinen Völker Europas und scheue mich, hier als Vertreter einer begnadigten Kirche verantwortlich zu wissen. Denn das möchte ich vorerst sagen. Ihr dürft nicht zu viel von unserem Leiden reden. Ihr dürft nicht etliche Kirchen als Höre mitunter das Wort heroische Kirche, denn das ist falsch. Wir sind begnadigte Kirchen und wir sind vielleicht mehr verantwortlich denn andere Kirchen. Denn ihr wisst das Wort Gottes an ihren Früchten, sollt ihr sie erkennen.
Vous avez demandé à des représentants des pays récemment occupés de prendre ici la parole. Vous venez d'entendre parler de la Chine. Je représente ici les petits peuples d'Europe et j'éprouve quelque gêne à la pensée de ma responsabilité comme délégué d'une Église qui a obtenu grâce. Que je vous dise d'emblée ceci, ne parlez pas trop de nos souffrances. N'appelez pas certaines églises héroïques, comme je l'entends dire parfois. C'est absolument faux. Nous sommes tout simplement des églises à qui Dieu a fait grâce, et nous sommes peut-être plus responsables que d'autres. C'est toujours un redoutable privilège d'avoir reçu la grâce de Dieu. Tel a été notre cas. Je désire ici le souligner. Ce qu'il nous a été donné d'éprouver le plus fortement, c'est à quel point Dieu, qui paraît si souvent irréel à notre humanité moderne, est devenu la réalité la plus immédiate, la plus puissante de chaque jour. La Bible, la parole de Dieu, a été la parole la plus actuelle de toutes. Nous y avons trouvé nos consignes les plus directes, les meilleures et les plus fortes. Nous nous sommes littéralement battus avec la Gestapo à cause de la Bible dans les prisons. Alors que j'étais interné, il me fut enfin permis d'envoyer chaque semaine une brève missive à ma femme. Je lui écrivis après le premier dimanche de l'Avent en 1942. As-tu remarqué hier ce texte évangélique? L'Esprit du Seigneur m'a envoyé. Nous y avons trouvé nos consignes les plus directes, les meilleures et les plus fortes. Nous nous sommes littéralement battus avec la Gestapo à cause de la Bible dans les prisons. Alors que j'étais interné, il me fut enfin permis d'envoyer chaque semaine une brève missive à ma femme. Je lui écrivis après le premier dimanche de l'Avent, en 1942, as-tu remarqué hier ce texte évangélique? L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression. À la suite de quoi, ma femme dut comparaître devant le chef de la police et apprit que dorénavant son mari n'aurait plus le droit de citer la Bible. Celle-ci est vraiment trop actuelle. Si la parole de Dieu revêt une telle actualité pour tous les hommes, même pour ceux qu'on suppose être incrédules, il y a plus de croyants que les hommes ne le pensent. Même pour ces incrédules, la Bible a signifié quelque chose de particulier. Il suffisait que n'importe qui vit une Bible sur la table pour comprendre aussitôt que la réalité la plus formidable au monde s'y trouvait. Dès que la Bible est attaquée, la parole de Dieu devient puissance de vie dans l'âme du peuple. Une expression biblique, reflète clairement cette expérience. Et c'est le nom que Dieu se donne lui-même. Je suis celui qui suis. Je voudrais que vous puissiez tous percevoir avec quelle force la parole de Dieu a constitué la réalité de chaque jour, et non seulement des heures de prière et du dimanche matin. Dieu ne s'est pas seulement manifesté comme un Dieu qui habite dans son Église, mais comme le Dieu vivant en pleine lutte, en pleine souffrance, comme le Dieu réel, là où nous ne pouvions pas sentir sa présence, dans l'obscurité, quand nous nous croyons abandonnés de Dieu. Si paradoxal que cela paraisse, c'était encore lui qui constituait notre seule réalité. Il était tout simplement là. Dans les heures les plus sombres et graves de l'humanité, dans l'abandon de Dieu, Christ est là. Il a passé par là. Il connaît tout cela. Il nous accompagne sûrement. L'Esprit de Dieu passe à travers les détails intimes, à travers les événements sans importance apparente. Il se sert des hommes, des voisins. Tout cela constitue la sainte communion à laquelle le Christ nous a appelés. Nous l'avons compris en voyant comment la parole de Dieu était transmise d'un homme à l'autre, comment les gens priaient les uns pour les autres. Nous avons été portés par l'intercession de l'Église. Nous avons vécu la communion fraternelle comme Dieu seul peut l'accorder aux hommes. Nous avons éprouvé pour la première fois, d'une manière aussi réaliste, ce qu'est l'écuménisme. La communauté vivante, profonde, des chrétiens dans le monde entier. Nous avions beau être assis, tous cernés de murailles. Nous a appelés. Nous l'avons compris en voyant comment la parole de Dieu était transmise d'un homme à l'autre, comment les gens priaient les uns pour les autres. Nous avons été portés par l'intercession de l'Église. Nous avons vécu la communion fraternelle comme Dieu seul peut l'accorder aux hommes. Nous avons éprouvé pour la première fois, d'une manière aussi réaliste, ce qu'est l'écuménisme. La communauté vivante, profonde, des chrétiens dans le monde entier. Nous avions beau être assis, tous cernés de murailles, nous savions que par-delà la mer, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, puis à l'Est, en Suède, plus au sud, au Danemark, et ici, à Genève, des cœurs battaient pour nous, des prières nous présentaient à Dieu. Par des moyens illégaux, nous avons appris la bonne nouvelle. On prie pour vous. Une lettre m'est parvenue de Genève. Soyez confiants. Vos amis prient dans toutes les églises du monde pour la Norvège. Nous avons remercié notre Dieu. Permettez-moi de vous rapporter un détail de ma captivité. Une femme de paysan voulait à tout prix me glisser une bouteille de lait. Sans doute, les sentinelles se reposaient-elles à cause de la chaleur estivale. Le fait est qu'elle a pu passer jusqu'à la fenêtre de la cuisine et qu'elle m'a chuchoté en me passant la bouteille. « Évêque, Mon mari a entendu hier illégalement la CSF. L'archevêque de Canterbury a prié pour vous. Elle s'éclipsa aussitôt. Mais son message m'est resté. Il me semblait que Dieu avait percé tous les murs, que le ciel et la terre s'ouvraient devant moi. C'était de l'air frais. C'était la communion des chrétiens. Je dois vous avouer quelque chose. Je me demandais vivement quelle impression j'éprouverais en revoyant mes amis de la chrétienté universelle. À ma surprise, je n'ai ressenti aucune surprise. Cela m'a paru tout naturel. C'est sans doute parce que nous avons vécu plus intensément en communion pendant ces 5 années que lorsque nous pouvions communiquer avec l'extérieur. Nous avons prié davantage les uns pour les autres. Nous avons mieux écouté la parole de Dieu. Nos cœurs se sont d'autant plus rapprochés. Je vois maintenant mes amis Bugner, Canterbury, Chichester, ceux des Indes, de la Chine, de la Suisse, et cela ne me paraît pas extraordinaire. C'est simplement la révélation de ce que nous savions déjà. Dieu ne veut pas une faible communauté écuménique, mais celle qu'il fonde puissamment lui-même, celle que les expériences de la guerre ont vivifiée. Le temps est révolu où la communion des chrétiens dans le monde constituait une recherche incertaine. Pendant cette guerre, Christ nous a dit « Vous êtes un. Rendez-en grâce à Dieu. » Ce n'est pas partout dans le monde que les hommes se retrouvent tout naturellement dans une communauté vivante. Pas une faible communauté écuménique, mais celle qu'il fonde puissamment lui-même, celle que les expériences de la guerre ont vivifiée. Le temps est révolu où la communion des chrétiens dans le monde constituait une recherche incertaine. Pendant cette guerre, Christ nous a dit, vous êtes un. Rendez-en grâce à Dieu. Ce n'est pas partout dans le monde que les hommes se retrouvent tout naturellement dans une communauté vivante. Église du Christ, tu dois être le feu dans la forge du monde, car aujourd'hui, il fait froid sur la terre. Et les fers sont froids, de sorte qu'on ne peut plus les forger. Venez, priez, soyez un en Christ, brûlez de sa flamme, vous, toutes églises du Christ, au milieu de votre immense responsabilité, recevez la bénédiction du Seigneur.
Und von seinem Feuer durchdrungen, du geeinigte Kirche, gesegnet von ihm und mit einer enormen Verantwortung. Amen.
Enfin, monte en chair le représentant des protestants d'Allemagne. Élancé, légèrement voûté, cheveux noirs plats, lunettes d'or sur les yeux, le pasteur Niemöller reste un moment recueilli avant de prendre la parole. Il appartenait au docteur Koechlin, président de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, de prononcer la prière d'intercession.
Prions Dieu. Dieu notre Père, Père tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, qui a appelé les nations à l'existence et qui veut qu'elles vivent et soient gouvernées selon tes saints commandements. Père de miséricorde, qui s'est donné à nous en Jésus-Christ notre Seigneur, tu ne veux pas que nous périssions dans nos péchés comme nous le méritons. Dans ta miséricorde infinie, tu as racheté le monde par le sang de ton Fils bien-aimé. C'est lui qui porte dorénavant notre jugement afin que nous soyons justifiés devant toi, que nous vivions devant toi, que nous soyons tes enfants, unis les uns aux autres par ton amour, dans ta paix et dans la joie de la victoire qui est tienne. Louange et gloire soient à toi. Nous ne sommes plus sous le joug et la domination des puissances des ténèbres et du péché et de la mort. Seigneur, nous portons devant toi toutes les souffrances, toutes les violences, toutes les injustices qui pèsent encore sur tes enfants. Aie pitié d'eux. Pardonne-leur leurs iniquités. Délivre-les de tout mal. Donne-leur ta paix. Nous, membres de ton Église, nous nous repentons devant toi de toutes nos défaillances, des péchés que nous avons commis. Aie pitié de nous. Pluriel Eisen. Seigneur, nous sommes membres de ton corps. Tu nous appelles à être ton Église. Donne-nous par ton Saint-Esprit la foi, l'espérance, l'amour. Donne-nous ta parole et accorde-nous dans ta grâce de l'annoncer dans la force de ton Saint-Esprit et d'être des témoins fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni Créator Spirit. Membre de ton corps, tu nous appelles à être ton Église. Donne-nous par ton Saint-Esprit la foi, l'espérance, l'amour. Donne-nous ta parole et accorde-nous dans ta grâce de l'annoncer dans la force de ton Saint-Esprit et d'être des témoins fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni Créator Spirit. Veuille dans ta bonté guider tous ceux qui dans toutes les nations portent d'une façon spéciale la responsabilité de l'avenir de leur peuple et de l'humanité tout entière. Donne-leur ta sagesse. Guide-les par ton Saint-Esprit, afin qu'ils gouvernent selon ta sainte volonté. Ô Christ ressuscité, roi des rois, Seigneur des seigneurs et de toutes les nations, à qui est donnée toute la puissance sur la terre comme dans les cieux, donne-nous de voir l'avènement de ton règne de paix, de justice, d'amour et de vérité. Viens, Seigneur, Maranatha. Amen.
Le modérateur de la compagnie des pasteurs remonte alors en chair pour terminer cet inoubliable culte œcuménique.